7h30, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est à la une, une innovation très prometteuse contre le cancer. Des mini-tumeurs reproduites en laboratoire pour servir de cobayes face au traitement à la place du patient. Reportage à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Les JO, malgré tout, Pékin lance des jeux d'hiver perturbés par la pandémie et les tensions géopolitiques. Les Occidentaux boudent la cérémonie d'ouverture. Pas Vladimir Poutine qui vient tout juste d'arriver sur place. Dans ce journal aussi, le procès Lelandais, la première semaine s'achève à Grenoble. Les boutiques traditionnelles sont-elles vouées à disparaître ? L'inquiétude des commerçants après des soldes moroses. Et direction Toulouse, où un tableau de la Renaissance retrouvé par hasard est vendu aujourd'hui aux enchères.
Et à 7h45 ce matin, le débat éco consacré au profit record des entreprises françaises du CAC 40, 137 milliards d'euros l'an dernier. Quelles explications ? Quelles conséquences ? On en débat dans un quart d'heure avec Thomas Piketty et Dominique Seux.
France Inter.
Chaque année, 382 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en France.
Soit plus de 1000 par jour. Et c'est toujours aussi la première cause de mortalité dans notre pays. Rappel nécessaire à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer ce 4 février. Mais heureusement, il y a aussi de nombreux motifs d'espoir. Comme cette innovation expérimentée à l'Institut Gustave Roussy, les organoïdes, des mini-tumeurs reproduites en laboratoire à partir de la vraie tumeur du patient. Les médecins s'en servent pour tester tous les traitements possibles et ne donner finalement aux malades que ce qui marche le mieux. On en est pour l'instant aux essais cliniques, mais ça pourrait bientôt devenir une routine, Véronique Julia.
On parle de mini-tumeurs. En fait, ce sont des cellules tumorales du patient cultivées en laboratoire. Sur une plaque, on verse une goutte de ces cellules dans plein de cavités minuscules. Dans chacun de ces puits, on va tester un médicament différent. Jérôme Cartry est ingénieur de recherche à Gustave Roussy.
On teste 25 médicaments et on va pouvoir analyser ça après à l'aide de petits logiciels pour voir quels sont vraiment les médicaments les plus efficaces sur les organoïdes.
En fonction des résultats, le traitement le plus adapté sera discuté ensuite avec l'équipe médicale. À l'origine du projet, la chercheuse Fanny Jolin, testée en amont en laboratoire, évite évidemment, dit-elle aux patients, de perdre du temps avec un traitement qui ne serait pas adapté.
Ça nous permet d'interroger un très large panel de médicaments anticancéreux. Le but, c'est d'éviter des traitements non efficaces et d'avoir à souffrir des toxicités de ces traitements qui peuvent être très lourdes.
La méthode est utilisée ici pour des cancers digestifs, chez des patients qui ont déjà épuisé plusieurs lignes de traitement. L'idée est de tester sur la tumeur des molécules auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et on a parfois très bonne surprise.
Dans notre panel de médicaments, il y a des molécules qui sont normalement données pour des cancers du sein. Dans 80% des cas, on trouve au moins un médicament efficace contre l'organoïde du patient.
L'avantage est également économique puisque ça évite de donner des traitements souvent onéreux sans garantie de résultat. L'essai va inclure des dizaines de patients. Il doit durer près de 2 ans.
Véronique Julia, puis une autre bonne nouvelle pour les guéris du cancer qui veulent souscrire une assurance emprunteur. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier pour réduire le délai du droit à l'oubli de 10 à 5 ans. La décrue de la 5e vague de Covid semble cette fois se confirmer nettement. 274 000 cas recensés hier contre 315 la veille. Et à l'hôpital, la situation se stabilise.
La pandémie qui va peser sur les JO d'hiver de Pékin.
Coup d'envoi aujourd'hui des 24e JO d'hiver. Dans une ville qui a déjà accueilli ceux d'été, c'est une première dans l'histoire de l'olympisme, 3000 athlètes vont concourir sur glace et sur neige, artificielle d'ailleurs. Côté français, on espère faire aussi bien qu'à Pyeongchang il y a 4 ans, à savoir 15 médailles. Gros espoir notamment pour le biathlon tricolore en pleine forme, même s'il va falloir composer, oui, avec cette bulle sanitaire extrêmement stricte. Les sportifs sont testés quotidiennement, pas mal de stress pour la biathlète Anaïs Bescon.
Personnellement, je le vis comme ça, j'ai cette pression tous les jours de me dire « Et si mon test, par je ne sais quel miracle, mais dans le mauvais sens, virait au positif ?» Enfin, je veux dire, moi, hier soir, j'ai eu un contrôle antidopage, j'ai aucun stress sur le résultat du contrôle antidopage, alors que par contre, le test du PCR de tous les jours, genre, on en entend, quoi, enfin, on en lit « Ah, bah tiens, celui-là, il est à la niche, il ne doit pas sortir, et hop, celui-là, il est rentré chez lui, hop, celui-là, il ne vient pas. » Je trouve ça hyper stressant, j'espère que ça va aller, voilà.
La biathlète Anaïs Bescon, autre valeur sûre côté français, Perrine Lafou en ski de boss, dès dimanche, Tess Ledeux en ski freestyle, ou encore Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en patinage artistique. Et il n'y a pas que le Covid, les tensions géopolitiques viennent aussi percuter ces jeux. Il n'y aura quasiment pas de dirigeants occidentaux à la cérémonie d'ouverture à 13h. Américains, Australiens, Britanniques, Japonais décrètent un boycott diplomatique pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Chine. La France, elle, adopte le mi-chèvre, mi-chou. Pas de représentant aujourd'hui dans le stade olympique, mais pas de boycott non plus. Elle enverra la semaine prochaine sa ministre des Sports sur place. En revanche, d'autres chefs d'État seront bien là dès ce midi, notamment Vladimir Poutine. Il vient tout juste d'arriver en Chine. En pleine crise ukrainienne, le président russe doit s'entretenir avec son homologue Xi Jinping. Car Sylvain Tronchet, Moscou et Pékin ont désormais une certaine vision commune du monde.
Dans la crise qui oppose la Russie aux États-Unis et aux Européens, la Chine a choisi son camp. Sans surprise, c'est à Moscou que Pékin a apporté son soutien ces derniers jours. D'après le Kremlin, aujourd'hui, Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient faire une déclaration commune en faveur d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Les deux puissances eurasiennes partagent notamment la même vision de l'OTAN, une organisation qui aurait dû disparaître, selon eux, à la fin de la guerre froide. Ces dernières années, les armées russes et chinoises ont multiplié les exercices communs. Elles seraient capables dorénavant de se coordonner sur certaines opérations militaires. Et les deux pays ont lancé plusieurs coopérations dans l'aéronautique et le spatial notamment. Cet axe Moscou-Pékin est aussi un échappatoire face à la menace de sanctions. Vladimir Poutine soulignait hier dans une interview à une agence de presse chinoise que les deux pays ont développé des instruments financiers dans leur propre monnaie pour leurs échanges, ce qui permettrait de contourner une éventuelle interdiction des transactions en dollars. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Le président russe qui a téléphoné hier soir à Emmanuel Macron, troisième coup de fil en quelques jours, toujours au sujet de l'Ukraine, dialogue constructif selon Moscou. Mais ce matin, nouvel épisode, les États-Unis soupçonnent les Russes de préparer une vidéo de fausse attaque ukrainienne, une vidéo de propagande pour justifier ensuite une invasion du pays.
La première semaine du procès Lelandais s'achève à Grenoble.
Et aujourd'hui, l'ancien maître chien va devoir s'expliquer sur les accusations d'agression sexuelle sur deux petites cousines. Elles ont eu lieu quelques semaines avant le meurtre de Maëlys, fin août 2017. Et c'est pendant l'enquête qu'on les a découvertes. Mathilde Vinceneux, les parents des deux fillettes sont attendus à la barre.
Ce sont ses cousins les plus proches. Ils l'invitaient à passer des soirées chez eux et à dormir. Ils avaient confiance en Nordal Lelandais. C'était même le parrain de l'une de leurs filles, jusqu'au jour où les gendarmes sont venus taper à leur porte pour leur parler de ces vidéos retrouvées sur le portable de l'accusé. Deux vidéos où ils touchent leur fille pendant leur sommeil. La première agression a eu lieu 6 semaines avant la disparition de Maëlys. La deuxième, 1 semaine avant. Maître Caroline Raymond est l'avocate de ses cousins et parents des petites filles.
Ces petites filles avaient 4 ans et 6 ans au moment des faits. Maëlys Diarrujo avait 8 ans. Ça pose évidemment la question d'un éventuel mobile sexuel concernant Maëlys Diarrujo, compte tenu de la proximité en âge de ses fillettes, mais également de la proximité au niveau de la temporalité des agressions commises au cours de cet été 2017.
Si Nordal Lelandais a reconnu ses agressions sexuelles sur ses petites cousines, il a en revanche toujours nié avoir abusé de Maëlys. Comme il a toujours contesté avoir consulté des images pédopornographiques, il est pourtant aussi jugé pour cela.
ArcelorMittal promet un acier plus respectueux de l'environnement. Le groupe annonce près de 2 milliards d'euros d'investissement en France pour remplacer ses hauts fourneaux au charbon par des fours électriques et des techniques à base d'hydrogène. Deux sites sont concernés, Fos-sur-Mer près de Marseille et Dunkerque dans le Nord, où Jean Castex est attendu aujourd'hui. On y revient en détail dans le journal de 8h. Encore un gros week-end d'emplettes avant la fin des soldes mardi, et on sait déjà que le bilan ne sera pas bon. Au moins 30% de clients en moins par rapport à 2019. D'ailleurs, solde ou pas solde, la baisse de fréquentation des magasins atteint des niveaux records, selon Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les professionnels parlent même d'un risque de décommercialisation. Le mot est fort. Que veut-on dire par là ?
Eh bien, c'est tout simplement la disparition à plus ou moins long terme des magasins. En cause, un double détachement par rapport au territoire. Ce sont d'abord ces plateformes internationales qui peuvent vous livrer à partir d'entrepôts qui ne sont pas installés en France. Et puis, ce sont ces enseignes françaises qui peuvent vous livrer sans avoir de point de vente physique. Alors, c'est une vision extrême de la digitalisation du commerce, mais c'est vrai que ces deux dernières années ont considérablement accéléré le processus. Le e-commerce a progressé de 80% entre 2019 et 2020, et encore de 15% entre 2020 et 2021, avec même une hausse de plus de 26% en ce qui concerne l'habillement.
Et avec un phénomène récent qui inquiète les commerçants, Agnès.
Oui, ils appellent ça l'économie de la flemme. En plein développement, uniquement pour l'instant dans les grandes villes, c'est livraison en moins de 15 minutes d'un tube de dentifrice ou d'un kilo de pommes à partir d'un dark store, un magasin caché qui n'a pas de vitrine, ce qui accélère encore une fois la disparition des commerces. Quelle société voulons-nous ? Interroge bon nombre de commerçants. Il est encore temps de réagir et de proposer autre chose, estiment certains. Comme à Marseille, où la marque Sessoun vient d'ouvrir un espace de 200 mètres carrés avec cantine, librairie, atelier et quelques vêtements.
Agnès Soubiran, spécialiste consommation d'Inter. Alerte rouge levée à La Réunion. Le cyclone Batsirai s'éloigne, mais la préfecture prévient, il y a toujours des risques d'inondation. Quant aux 11 marins bloqués dans un navire mauricien échoué à quelques mètres des côtes, ils ont été cette nuit secourus, sains et saufs.
Longtemps porté disparu, un tableau de la Renaissance est vendu aux enchères. Aujourd'hui, c'est à Toulouse.
Oui, une peinture de 1520 signée de l'Allemand Bernard Striegel. Figurez-vous qu'on l'a retrouvée par hasard l'été dernier dans un appartement de la ville rose, et ceux qui l'ont découverte ont eu le nez creux. L'ange turiféraire, c'est son nom, est estimé entre 600 et 800 000 euros. Et avant sa vente, les Toulousains ont pu le découvrir. Soizic Pelet aussi, reportage.
Exposé au cœur de la chapelle des Carmélites, où il va être vendu cet après-midi, Sophie n'aurait manqué ça pour rien au monde.
J'aurais pris un jour de congé exprès pour pouvoir en profiter le plus possible et l'admirer, et l'observer. Je trouvais que c'était peut-être la seule fois où je pourrais voir ce tableau avant qu'il parte et qu'il soit acheté.
Michel tient aussi à être présent pour la vente.
On a l'habitude de faire les salles des ventes, et là on a voulu voir. On va venir par curiosité, parce que on n'a pas le budget.
Il faut dire que ce tableau est estimé entre 600 et 800 000 euros, pas vraiment abordable pour tout le monde. Mais au-delà de ça, Pauline Maringe, l'une des commissaires priseurs qui organise cette vente, aimerait que ce soit plutôt un musée qui l'achète.
Parce que Bernard Striegel donc, est méconnu, son œuvre est méconnue, et c'est vrai que là, on a l'impression de participer un peu à sa notoriété, et on se dit que si il peut être accroché sur les murs d'un musée, ce serait formidable.
Une suite logique aussi pour Philippine Motten-Narbonne, qui a expertisé ce tableau.
On l'a sorti de l'oubli. On l'a attribué et on a retrouvé son frère, son jumeau. Et c'est une grande découverte. C'est fabuleux de pouvoir appareiller un tableau, le mettre en pendant, l'affronter à un autre.
Un jumeau acheté il y a plus de 10 ans maintenant par le Louvre Abu Dhabi pour plus de 900 000 euros.
Soizic Pelet. Puis un mot de football, Jérôme. L'Égypte rejoint le Sénégal en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens ont éliminé hier soir le Cameroun au tir au but.
Voilà, encore une fois pour les Égyptiens. Merci Alexis Morel pour ce journal. L'édito politique est à suivre.